In extenso.
In extenso.
Deuxième partie. À table avec Heidi, ce nouveau livre, 50 recettes gourmandes aux éditions Fave. On le rappelle, à table avec Heidi, c'est une union entre Anne Martinetti et Isabelle Falconier. Isabelle Falconier, vous êtes avec nous. On rappelle, vous êtes journaliste, chroniqueuse, critique littéraire. Vous avez organisé pendant de très nombreuses années le Salon du Livre de Genève. Autant se dire que pour l'écriture. Alors, on l'a entendu dans la première partie, aussi pour la parole. Vous avez exactement parlé de ce livre extraordinaire qui permet, alors, ces 50 recette de se plonger dans le monde culinaire qui entoure le mythe Heidi, mais vous présentez aussi beaucoup d'autres choses, beaucoup d'aspects de la vie sociale et du mythe Heidi, comme aussi tout ce qui est visuel, parce que Heidi c'est des moments, c'est des instants, et c'est à chaque fois on a un peu son Heidi à soi, quoi.
Oui, mais chaque génération, et c'est ça, c'est pour ça que Heidi a la puissance d'un mythe. C'est pas pour rien qu'aujourd'hui encore, on sort à l'écran Mad Heidi, que sur Netflix, on peut voir une animation qui date d'à peine 4-5 ans, que des Playmobil Heidi sont sortis. C'est que ça a la puissance d'un mythe, c'est-à-dire que chacun peut en faire ce qu'il veut. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une Heidi. Par contre, il y a toujours ce fil rouge de Heidi, c'est une petite fille qui a un lien très fort à la montagne. Heidi, c'est une petite fille très courageuse. Et Heidi, c'est quelqu'un à qui on ne le fait pas, quelque part, qui a une volonté, une opiniâtreté. Et puis, c'est quelqu'un de fondamentalement gentil. Et en relisant les Heidi d'origine, ce qui m'a frappée, c'est que Heidi, non seulement elle, c'est une héroïne parfaitement suisse dans le sens qu'elle habite en Suisse, hein, son Alpes, l'alpage,
c'est les Grisons,
etc. Avec d'ailleurs ce qui est aujourd'hui le Heididorf dans le Heidiland. Enfin, il y a tout un enjeu aussi touristique et marketing là autour. Mais ce qui est là-dessus, c'est que c'est quelqu'un qui réconcilie les mondes a priori antagonistes. Elle réconcilie la ville et la montagne. Elle réconcilie donc la modernité galopante et la nature, elle réconcilie le grand-père avec le village. Et ce pourquoi on a aussi fait un livre de recettes à table avec Heidi, c'est que la nourriture joue un très grand rôle. Il y a deux, trois éléments. Ben, on a parlé du lait, du fameux lait de chèvre magique. Hein. Il suffit de boire un lait de chèvre à Clara pour qu'elle remarche. C'est aussi un marqueur de classe sociale, en fait, dans Heidi. La première fois que Heidi arrive à Francfort, dans cette famille bourgeoise, elle n'a connu que l'alpage.
Elle trempe le pain dans la soupe, ça choque tout le monde.
Elle se fait en guirlandais, elle a jamais vu un poisson, elle a jamais vu des fourchettes à poisson. Effectivement, elle se fait traiter de petite sauvage, et puis elle vole les petits pains blancs parce que elle veut les ramener à la grand-mère, mais elle sait pas que les petits pains s'assèchent, et là encore elle se fait engueuler. Donc la nourriture, et puis c'est les nourritures affectives. Le grand-père commence par engueuler Heidi, qu'il ne connaît pas au début, mais qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, bon, si on passait à table, et il lui offre du fromage fondu tartiné sur du pain et un verre de lait de chèvre tout chaud, et voilà, et il lui disait, avec ça, tu es la bienvenue chez moi.
C'est vraiment un cet accueil, et puis ce mythe Heidi que vous défendez et que vous mettez en avant. On veut comprendre Heidi, on lit vraiment plus que ces 50 recettes gourmandes, et puis se souvenir aussi, alors vous avez dit marqueur de classe sociale, marqueur de féminisme aussi, d'indépendance, de liberté. Il y a tout ça qui rentre dans ce mythe et qui, quoi qu'il arrive, est toujours d'actualité.
Il est déclinable à l'infini. Très tôt, c'est devenu un mythe mondial, universel. C'est rare qu'il arrive à une auteure comme Johanna Spyri ce qui lui est arrivé, c'est-à-dire de créer un personnage qui devient un mythe connu dans le monde entier. Et très vite, déjà, c'est Hollywood qui s'en empare, Shirley Temple, c'est dans les années 1930. Le Japon traduit Heidi déjà dans les années 20, et c'était parti pour un engouement. Vous voyez, d'un côté, on a l'Amérique avec Shirley Temple et Hollywood, et de l'autre, on a l'Asie avec le Japon.
Ce manga dans les années 80, effectivement, sur Heidi. S'approprier le mythe Heidi, alors on imagine que pour vous, journaliste chroniqueuse et puis ancienne organisatrice du Salon du Livre à Genève, alors c'est un certain défi, puis il faut oser aller dedans, parce qu'en plus, vous résumez à chaque fois sur une ou deux pages les différents points forts, que ce soit la sagesse, que ce soit l'histoire, l'appropriation, le mythe dans son ensemble, qui est Johanna Spyri, tout ça à chaque fois sur une ou deux pages, il y a un gros travail de vulgarisation et de simplification.
Bah, c'était c'est passionnant. Moi, j'étais une gamine qui a grandi au-dessus de Vevey. J'ai grandi dans la montagne. Enfin, non, je me prenais pour Heidi carrément, quoi. Et donc, c'était génial en tant qu'adulte d'analyser finalement une passion d'enfance, mais avec des yeux d'adulte, en se demandant mais de quoi est-ce que j'étais à ce point passionnée. Et ce qui est fantastique avec Heidi, c'est que à qui on peut parler de Heidi à n'importe qui, fille, garçon, quelle que soit la génération, quel que soit l'âge, quel que soit le pays d'origine, tout le monde a une idée de Heidi. Tout le monde aussi a vu une Heidi et tout le monde a sa Heidi. Certains ont grandi effectivement pour les plus âgés avec la Heidi, les films de Comencini des années 50. Moi, j'ai grandi avec la série de 1978 et 79, hein, avec le fameux générique que la montagne est jolie. Alors, évidemment, je fais partie des gens qui ne peuvent pas entendre ça sans avoir quasiment la larme à l'œil. Il y a les plus jeunes qui ont grandi avec les séries d'animation, que ce soit des années 80, mais ensuite des années 2000. Donc tout le monde a sa Heidi au fond du cœur et c'est pour ça que c'est un sujet fantastique et qu'on peut et qui invite d'ailleurs à se réunir autour d'une table et de partager un bon repas en pensant à elle.
57 gourmandes à table avec Heidi, justement Isabelle Falconier, avec votre collègue Anne Martinetti, vous proposez ce livre. Il nous reste à peine une minute au niveau des recettes, justement ces 57 gourmandes qui sont toutes adaptées et qui font partie de cet ensemble d'éléments que vous mettez vraiment en avant. Parce que c'est pas que des recettes, justement. Dans ces recettes, là, il y a un petit coup de cœur, vous. Vous en avez une que vous avez voulu cuisiner particulièrement.
Alors, un vrai coup de cœur pour la première, une des plus simples du livre, la soupe de Pierre. Donc, Pierre, Peter, le petit copain de Heidi, c'est un mélange d'herbes et de lait. On oublie que les soupes, c'est pas que des soupes de légumes. Cette soupe avec du lait, de la crème, de l'œuf et puis des herbes, mais elle a tellement le parfum de l'alpage. Je m'y suis cru.
La perfection. On rappelle, vous serez en dédicace le samedi 17 décembre prochain de 14h à 16h chez Payot à Montreux. Et puis toutes les informations, editionfavre.com. Et bien sûr, on vous suit exactement pour retrouver, pour acheter dans toutes les bonnes librairies à table avec Heidi. 57 gourmandes aux éditions Favre. Merci beaucoup Isabelle Falconier.
Merci de l'accueil. Bon appétit, bien sûr.
Bon appétit. In extenso.